Bonsoir et bienvenue à tous pour trois quarts d'heure d'analyse, des commentaires et des débats autour de l'actualité de la semaine que vous propose la fréquence de la paix Radio Kapi. Au sommaire, 30 juin 1960, 30 juin 2015, la République démocratique du Congo a célébré ses 55 ans d'indépendance. Dans son discours traditionnel à l'occasion, Joseph Kabila fait le point des consultations qu'il mène auprès des représentants des couches de la population. Et entre-temps, dans la classe politique, il était question de faire le bilan des 55 ans d'indépendance. Nous en parlons juste après le sommaire. Et puis, au même 30 juin, il était question que la RDC passe de 11 à 26 provinces selon la loi de programmation des nouvelles provinces. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la RDC n'est pas parvenue à installer les 26 provinces et c'est avec les journalistes qui sont avec moi dans ce studio. Je cite Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA, et média qui est ici à Kinshasa. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir Roderick Franklin, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Fidèle, bonsoir.
Bonsoir confrère.
Et Georges Kassongo, journaliste à la radio Akizabina Damou, une radio qui est née à Kindu au Maniema. Georges, bonsoir. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Bonsoir et bienvenue à tous. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Guy Maté, à qui j'ai dit bonsoir.
Bonsoir. La presse kinoise de cette semaine s'est penchée sur notamment la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC et sur le processus du découpage territorial. 55 ans d'indépendance de la RDC, les journaux ont chacun à sa manière relayé les différents messages lus à cette occasion. C'est ainsi que Forum des As ouvre les balles et assure à sa une que, en dépit de quelques divergences à planir, plus rien ne s'opposerait désormais à la tenue du dialogue, voie de sortie à la crise actuelle. Selon le journal, s'adressant tour à tour à la nation, le chef de l'État Joseph Kabila et le leader de l'opposition Étienne Tshisekedi ont estimé que le dialogue est la voie royale pour sortir de la crise. Pour le quotidien, les discours des deux principaux acteurs de la scène politique congolaise à l'occasion de la fête de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale étaient les plus attendus pour fixer les uns et les autres. Quelques divergences restent cependant à aplanir, reconnaît le canard, qui parle notamment du fait que, pour le pouvoir, le dialogue constitue une initiative du chef de l'État, alors que du côté de l'opposition, il est bel et bien question d'une disposition de l'accord cadre signé à Addis Abeba par 11 chefs d'État africains sous la caution de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, selon les Phares, face à cette exigence de l'aile radicale et de l'opposition, Joseph Kabila a été catégorique, pas d'ingérence étrangère dans les affaires congolaises. À son avis, les Congolais sont suffisamment mûrs et responsables pour se parler sans témoins et laver leur linge sale en famille, explique le journal. Le palmarès, pour sa part, reprenant à sa une l'intégralité du discours du chef de l'État, annonce que Joseph Kabila a clairement défini les contours du dialogue. Le journal souligne notamment que le chef de l'État a indiqué que le dialogue politique, incontournable à tout point de vue, ne peut se dérouler sous ingérence extérieure et que ce forum va se dérouler sous un format réduit avec un nombre limité de participants et en un temps record. Sous le chapitre du démembrement des provinces, ce Forum des As titre sur sa manchette « Découpage territorial, aucune nouvelle province s'est installée au 30 juin ». Et au quotidien de développer, face au blocage persistant, le Parlement doit avoir le courage d'abroger la loi de programmation systématiquement violée depuis sa promulgation. Le processus de démembrement des provinces continue à battre de l'aile et pourtant le gouvernement avait fixé la ligne rouge à ne pas franchir au 30 juin 2015. Sous un autre chapitre, le quotidien Le Phare revient sur la nouvelle faisant état de la mort de Kalala Mukendi. Ce journal consacre un article particulièrement fourni à ces virtuoses du football congolais, plusieurs fois titré champion d'Afrique en 1974, vainqueur en club toujours au niveau continental, mais aussi plusieurs fois vainqueur en championnat au niveau local. C'est par cette nouvelle que nous mettons fin à cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine, nous avons le dernier rapport de l'ONG internationale Amnesty International publié jeudi. Ce rapport revient sur les enquêtes menées autour de l'opération de l'expulsion des Congolais vivant au Congo-Brazzaville dénommée Mbata ya Bakolo. Dans ce rapport, l'ONG affirme que les expulsions collectives des ressortissants de la RDC pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Jean-Pierre Kayembe, comment vous analysez cette affirmation de Amnesty International?
Oui, je crois que Amnesty n'a fait que redire ce qui a été dit pendant tout ce temps. Nous avions à son temps déploré les conditions infrahumaines qui ont accompagné ces expulsions massives, presque près de 250 000 personnes expulsées dans les conditions que l'on connaît, ponctuées des viols, des tortures morales et physiques et de toutes sortes. C'est des infractions que l'on peut ériger.
Et on dirait que ça, c'est la presse, et c'est plutôt la presse qui a plus mis un accent particulier sur cet événement.
Le rapport d'Amnesty International vient un peu en retard, d'autant plus que ces crimes étaient commis au vu et au su de tout le monde. En son temps, les Nations Unies avaient été saisies. Je ne sais pas quelle a été leur réaction. Le gouvernement a protesté. Le gouvernement avait exprimé son mécontentement par rapport à ces expulsions massives et humiliantes. Et donc, aujourd'hui, j'ai parcouru le rapport publié par Amnesty International qui demande à ce que le gouvernement du Congo d'en face puisse engager des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces actes. Et je crois qu'il n'est pas tard pour mieux faire.
Merci. Alors, Fidèle Moussango, est-ce que vous êtes satisfait que ce soit une ONG internationale qui fasse cette déclaration en lieu et place du gouvernement?
Écoutez, le Congo apparaît comme un enfant orphelin de père et de mère. C'est comme s'il n'y a pas un chef de l'État qui, en principe, selon la Constitution, est le garant de la nation et le symbole de l'unité nationale. C'est très important. Il est la seule personne au Congo à avoir ces deux prérogatives qui sont extrêmement très importantes. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de la nation. Il n'a pas réagi. Le Congo est orphelin d'une mère. C'est le gouvernement. Remarquez, nous avons combien de gens à la CPI? Qui les a déférés là-bas? C'est des pays tiers. La Centrafrique. C'est des particuliers ici. Et c'est le gouvernement congolais. 250 000 Congolais expulsés dans des conditions infrahumaines. Et les autorités brésiliennes s'en vantaient jusqu'à donner un sobriquet, Mbata Bakolo. Ça, c'est grave. Les uns ont été violés, battus, tués, les biens enlevés, arrachés, jetés comme des animaux dans des bateaux ici. Et nous sommes les deux capitales les plus rapprochées du monde. Nous avons des liens au plus haut sommet de l'État. Claudia Sassou, sa maman est congolaise. C'est la nièce de Monsengo. La femme de Sassou est congolaise d'ici de père. C'est sa mère qui est brazzavilloise. Et je ne compte pas beaucoup d'autorités, des liens de sang. Et voilà ce qui nous arrive. Et ici, le garant ne dit rien. Le gouvernement ne dit rien. Nous avons l'impression que le gouvernement et le garant sont complices.
Merci. Alors, Georges Kasongo, vous êtes journaliste à la radio Akiza Binadamo. Vous êtes en ligne avec nous cette fois-ci?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre. Quelle est votre lecture sur le dernier rapport d'Amnesty International qui estime que les expulsions collectives des ressortissants de la RDC pourraient constituer des crimes contre l'humanité?
Oui, cela est vrai. Amnesty n'a fait que le travail que devaient normalement faire les gouvernements de Kinshasa, ce que devaient faire nos organisations locales. C'est ce que Amnesty a fait, donc coup de chapeau à cette organisation. Mais aussi, ces rapports devraient être faits, ou bien élaborés, présentés et publiés même par le ministère des droits humains. C'est ce que Amnesty a fait. Amnesty a compris le silence coupable. Je ne sais pas si c'est le silence complice, mais c'était un silence coupable. Alors Amnesty n'a pas voulu laisser passer cette histoire comme ça inaperçue. Nous disons chapeau bas à Amnesty qui a bien publié ces rapports.
Alors, en même temps, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Kindu?
Oui, c'est la fin de l'année scolaire. Les enfants, donc, c'est le 2 juillet. On a publié les résultats de l'année scolaire. C'est là aussi, encore, en termes d'actualité. C'est ça, la grande actualité même qui a marqué la semaine.
Merci beaucoup. Alors, on revient avec vous sur l'autre actualité de la semaine qui est pratiquement une page noire. Nous l'avons suivi dans la revue de presse de Guy Maté. L'attaquant vedette des Léopards de la RDC à la fin des années 60, Pierre Kalalamukendi, alias Bombardier, est décédé mardi 30 juin à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie en Afrique du Sud. Pierre Kalala était l'unique buteur de la finale de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre la RDC, alors le Congo, et le Ghana en 1968 à Addis Abeba en Éthiopie. Ce but avait permis aux Congolais de remporter leur premier trophée continental. Fidèle Moussangou, est-ce que vous gardez un souvenir de cet illustre disparu?
Non, j'ai des très bons souvenirs d'amitié, de fraternité, de complices. Je connais Kalala dans sa famille, que j'ai connu à Lubumbashi, ici, quand il est revenu à Kinshasa. Un homme jovial, un gars très simple, et puis alerte. Un excellent footballeur, le journal a titré que c'est l'un des meilleurs, des monuments du football africain. Je vous dis par exemple le but qu'il avait marqué à Addis Abeba. C'était 40 mètres, un tir fumant, et c'était fini. Et nous avons remporté la coupe. Deuxième élément, nous avons une culture footballistique qui date de l'époque avant l'indépendance. N'oubliez pas que nous avons des Congolais qui ont joué dans l'équipe nationale belge. Il y a Moukouna, il y a 5-6, qui ont marqué des buts devant le roi Baudouin. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. C'est pour que nous avons une culture de football. Maintenant, nous perdons un monument. J'espère qu'il faut qu'on institue sa date de naissance comme une journée chômée. Alors, je souhaite maintenant qu'on puisse prendre sa famille en charge, comme on le fait pour les anciens premiers ministres qui ont un salaire mensuel, qui est de soins médicaux. Ça, c'est un monument de l'histoire football congolais. C'est un des symboles de l'Afrique pendant des années. Alors, j'espère qu'on va prendre en charge et qu'on fera des obsèques grandioses à Lubumbashi et ici à Kinshasa.
Merci. Alors, Jean-Pierre Kaimé, est-ce que vous, quel est votre analyse sur ce monument qui vient de nous quitter?
Oui, j'étais en tout cas dans mes petits souliers quand j'ai appris que le vieux venait de tirer sa révérence. Ici, il faut admettre que Pierre Kalala n'est pas n'importe qui dans ces pays, c'est une légende, c'est un monument, c'est une icône. Lui qui a fait son temps, bien sûr, dans les années 60, on connaît ses performances, notamment avec le Tout-Puissant Mazembe et aussi avec l'équipe nationale dont il a été capitaine à un moment. Il a entraîné le Tout-Puissant Mazembe vers les années 80, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est vraiment un monument qui nous quitte aujourd'hui dans l'indifférence, qui nous quitte dans l'indigence la plus totale. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Mais je réitère les mêmes vœux, qu'il ait quand même droit à des obsèques dignes de ses exploits, qu'il ait droit à des obsèques dignes de ce qu'il a eu à faire aussi bien pour l'équipe nationale. Ces années 68 nous reviennent encore, même si on n'était pas encore né. Mais l'histoire, vous savez, une nation qui n'a pas d'histoire n'a pas de repère. Donc aujourd'hui, on souhaite que le gouvernement s'organise et qu'on offre à ses vieux des obsèques dignes de son nom.
Alors Georges Kassongou, est-ce que vous pensez que Pierre Kalala Mukendi a laissé des souvenirs indélébiles à la jeune génération congolaise qui évolue dans le domaine de football?
Voilà, Kalala Mukendi, Bombardier ou Yaoundé, comme souvent l'appelait mon père, c'était un géant. Parce que je me souviens souvent, mon papa me disait, Kalala a été deux fois champion d'Afrique en tant que joueur et une fois comme entraîneur. Voilà la mémoire que j'ai de Kalala. Mais aussi, Kalala devrait, semble-t-il, décéder depuis l'année 2005, ni que c'était l'intervention du président de Mazembe qui lui a évacué à ce temps-là. Nous avions suivi l'information. Il est revenu jusqu'à Lubumbashi, même à la télé à Kinshasa. Il a remercié énormément le président de Mazembe. Donc, nous gardons vraiment de cet homme des bons souvenirs. Il a rendu des loyaux services à la jeunesse footballistique. Mais aujourd'hui, il a suivi la voie de tous les êtres humains de ce monde. Nous ne pouvons que garder une pièce mémoire pour lui, mais aussi organiser des obsèques dignes de ce rang, dignes d'un champion qui vient de nous quitter, un champion qui tire sa révérence. Voilà au moins tout ce que nous pouvons dire de Kalala.
Merci beaucoup et c'est sur cette note que nous passons à notre premier thème de cette soirée qui concerne justement les 55 ans d'indépendance de la RDC. Le 30 juin dernier, la RDC a célébré les 55e anniversaire de son indépendance et dans son traditionnel discours à l'occasion de cette fête, le président de la République a fait le point des consultations qu'il mène auprès des représentants des couches de la population. Ces consultations, a-t-il rappelé, portent notamment sur la question du calendrier électoral, le financement des élections ainsi que l'enrôlement des nouveaux majeurs. On écoute cet extrait du discours du chef de l'État isolé par Martin Sebou-Jangoui.
Chers compatriotes, ne pas régler ces questions en temps voulu et de manière consensuelle pourrait plonger le processus électoral dans une impasse et engendrer des conflits de tous ordres. Je remercie très sincèrement tous ceux et toutes celles issus de toutes les couches de la population qui, lors de consultations entamées, ont répondu sans hésitation à cet appel qui, à mes yeux, est celui de la sagesse. Leurs propositions sur la meilleure manière d'organiser le dialogue seront, autant que faire se peut, prises en compte. À cet égard, même si les consultations se poursuivent encore, j'ai retenu avec intérêt que l'écrasante majorité des délégations qui se sont déjà exprimées, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, souhaitent que, dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené sans ingérence étrangère, à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte.
C'était là le président de la République, un extrait choisi par Martin Sebujangui. Alors Jean-Pierre Kaimbé, comment vous avez accueilli ce discours du chef de l'État?
Merci pour la question. Ce discours était très très attendu, d'autant plus que ça faisait pratiquement 3 semaines que le chef de l'État consultait les couches socio-politiques de notre pays et on attendait d'importantes mesures ou des décisions importantes.
Et vous êtes satisfait des annonces?
Oui, Joseph Kabila, en les suivant ce 30 juin, il a en quelque sorte répondu. Il a répondu, il a rendu public, si vous voulez, les désirs des uns et des autres, les recommandations lui faites, qui ont été faites par les couches sociopolitiques qu'il a consultées. En quelque sorte, il a répondu également à l'opposition. À l'opposition, il a circonscrit les cadres du dialogue qui profile donc à l'horizon.
Oui, Jean-Pierre, est-ce que c'était le moment idéal de faire le point sur les consultations dans ce discours-là?
Je crois que il est donné à un chef de l'État, d'après notre Constitution, de se prononcer, de s'adresser à la nation, à la veille des grands moments, des moments historiques de notre pays. Et je crois qu'il était important que le chef de l'État profite de cette occasion pour rendre public des mesures importantes par rapport à la survie de la nation. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que tous, aussi bien l'opposition qu'à la majorité, on est d'accord, le seul point qui nous met en commun, c'est le dialogue. On sait que tous, on est pour le dialogue, mais il faut revoir certains petits détails. Ça, c'est le sujet qu'il a eu à consulter et éventuellement le dialogue qui sera convoqué incessamment avec les formats dont on sait, on parle de près de 40 personnes.
Sans la médiation de la communauté internationale.
Sans la médiation de la communauté internationale, je salue cette décision, cette prise de position. Parce que, Béry Franklin, vous allez dire que 55 ans après, le Congolais n'est à mesure de rien. Non, c'est absurde. Moi, je crois que au lendemain d'un 55e anniversaire de la décolonisation, il est normal que les Congolais se mettent autour d'une table et arrivent à résoudre leurs différends sans forcément faire appel à un quelconque cerveau étranger. Je crois que dans ces pays, nous avons des gens extrêmement compétents et qui peuvent officier ou, si vous voulez, arbitrer ces forums entre opposition et majorité. Donc, je crois que cette médiation internationale, à mon avis, n'est pas la bienvenue.
Très bien. Alors, on va donner la parole à Fidèle Moussangou. Quelle est votre analyse? Comment vous avez accueilli le discours du chef de l'État?
Non, j'étais fortement déçu que le président de la République n'a pas examiné le point focal maintenant. Ce sont les élections.
Mais il a évoqué
les élections,
quand même.
Il y a un processus électoral qui est contesté. Avec ces élections locales et territoriales, tout le monde lui a dit, monsieur le président, on n'a pas de l'argent pour ça. Même si on en a, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire les locales. On devait les faire déjà en 2006. Pourquoi n'a-t-on pas fait ces élections après 2006? On aurait pu faire les municipales. On aurait eu la tête. Puis pour ces élections locales, il faut un recensement général qui peut prendre 4 ans. On a dit non. Attendez. Le pouvoir qui viendra après vous en 2016 va d'abord organiser le vrai recensement pour connaître le nombre des Congolais et le nombre de sièges électoraux. Mm-hmm. C'est ça le problème. Parce qu'il faut dire non, on entend. Il y a des approximations qui donnent une province comme Katanga comme étant la plus peuplée. C'est faux. Ni le Katanga, c'est faux. Il faut vivre. Il faut aller au Katanga, il faut aller au Katanga. Vous savez, on a compté les arbres ici. Ou là au Katanga, on a compté le termitière. Alors maintenant, il faut être clair. Nous gardons les fichiers électoraux qu'il faut encore revisiter. Il y a eu des morts, il y a eu des doublons. Il faut commencer par revisiter, donner ça à une entreprise neutre. Parce que quand deux chiens se disputent d'un os...
Mais la télé est neutre quand même.
Non, surtout pas celle-là, il y a des problèmes. Bah, vous avez vu ce qui s'est passé en 2011? nous n'avons pas encore acquis cette neutralité. Ça devait se faire au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons eu des élections ici en 60 et en 65, mais avec Mobutu. Il n'y avait qu'un ministère compétent pour faire ça. Là, il y a une direction des élections, parce que les élections, ça se dépasse en 4 ans. Il y a plusieurs élections qui peuvent se passer entre le demi du mandat. Et puis, le mandat n'est pas le même. Le mandat du président n'est pas le mandat de l'Assemblée, ainsi de suite. Oui, oui, le Sénat, ça fait comment ça?
Disons.
Bon, ce qui fait que il faut se mettre d'accord pour dire, chaque fois que les Congolais ont voulu se mettre sur une table, il y a toujours des pêcheurs dans nos troubles. À la conférence en Solal, on a gardé un mauvais souvenir de Mossengo. Et maintenant, quand Mossengo a pris position en 2011, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux et de mensonges. Alors donc, on dit, ah non, non, Mossengo proche de l'opposition. Ah, Marini, oh. Alors, dans ces cas-là, puisque le dialogue n'est pas une affaire de Kabila, de Tshisekedi, de Mossengo, c'est une affaire d'accord cadre d'Addis Abeba. Il ne faut pas oublier l'histoire. Alors on s'est dit, bon, comme Addis Abeba, l'Addis Abeba est une médiation neutre. Et nous avons, comme l'air. Alors maintenant, on soulève la souveraineté. Oui, monsieur, la souveraineté. Sans la MONUSCO, nous n'aurons jamais venu à bout de l'armée rwandaise. N'est-ce pas? Camouflé dans M23. Parce que notre armée est infiltrée par des Rwandais, des Ougandais, des espions de Kigali, des Kampala.
Est-ce que c'est cet aspect des choses qui rend l'opposition dubitative pour aller au dialogue?
Non, il y a des faits. Il y a des faits graves. Ce qui s'est passé en 2011, l'histoire le dira un jour. C'est un scandale électoral qui nous donne, qui nous a encore humilié, nous les Congolais.
D'accord.
Oui. Alors maintenant, on dit il faut une personnalité. Kobler là, ce n'est pas Kobler. On cherche quelqu'un à travers le monde. On cherche par exemple la Fondation Carter. C'est juste pour un temps. Et quand mon confrère dit 40 personnes, je suis d'accord. Et il faut trier les personnes. On va nous amener non, à station des pêcheurs, oh, de quoi? Non, non, non. L'opposition, la vraie, on dit, monsieur, les opposants, vous vous réunissez d'abord ensemble, vous faites maintenant un cahier des charges, et vous choisissez vos 10 représentants. Le pouvoir aussi, attention, on peut perdre, il n'y a pas que la bonne foi, on peut perdre des dissensions graves, il faut le dire.
D'accord. Ouais. Bon. On va donner la parole à Georges Kassongo. Georges, le chef de l'État, comme vous l'avez entendu, oui, a fermé la porte à toute médiation internationale. Est-ce que vous comprenez cette attitude?
Bon, la médiation en soi n'est pas mauvaise. Même en famille, lorsqu'il y a un problème entre frères, on peut recourir soit à une tante qui s'est mariée quelque part, soit à un neveu, le plus âgé de tous les neveux de la famille, qui est de l'autre village ou bien de l'autre famille. Ils peuvent toujours venir arbitrer les problèmes entre les membres d'une famille. Et c'est là, je ne vois pas le mal. Là où il y a un problème, c'est au niveau où nous voulons un médiateur, un arbitre neutre, nous voulons un arbitre, ceci, cela. Vous voyez, ça cache des intentions et c'est là où les bas blessent. L'idée d'avoir un arbitre, un médiateur neutre, international ou nationaux, bon, moi je ne vois pas de problème à ce niveau. Mais pourquoi cette ligne dit, coûte que coûte, il doit être national? Pourquoi les autres disent, coûte que coûte, il doit être étranger? Vous voyez, là où il y a les problèmes, c'est à ce niveau. Mais l'idée d'une médiation neutre, vraiment, on ne voit pas les conséquences.
Alors, le problème tel qu'a évoqué Fidel, dont le président n'a pas évoqué sérieusement, c'est le calendrier électoral tel qu'abordé par le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, le calendrier en lui-même porte des problèmes en son sein. Le plus grand problème du calendrier, c'est quoi? Les élections locales, municipales et urbaines. C'est là où il y a les problèmes où on doit toucher le calendrier. Mais on ne doit pas toucher le calendrier pour aller au-delà de mardi, le 20 décembre, non? Là, il n'y a pas à en toucher, mais s'il faut toucher, mais si nous disons que nous devons protéger les locales, c'est-à-dire que nous devons, coûte que à tout prix, toucher le calendrier, et moi, je trouve que cela n'est que justice, le calendrier doit être touché, mais il faut trouver un consensus autour de ce calendrier, dans la mesure où, dans le calendrier, il figure les locales, les municipales et les urbaines, alors on va les enlever moyennant quoi? Moyennant un consensus. C'est là où normalement il y a besoin que les calendriers soient retouchés. Soit on essaie d'organiser d'une façon d'ensemble toutes les élections, disons provinciales, nationales et présidentielles, disons le même jour, ou carrément on essaie de proposer, mais on touchera nécessairement au calendrier. Donc je ne vois pas là où le calendrier, est-ce que le calendrier aussi devient une autre Bible, soit un autre Coran où les gens ne doivent pas toucher? Moi je ne trouve pas de problème là-bas. Les problèmes sont juste dans les intentions que se traitent les gens.
D'accord, merci. Et dans la classe politique du 3, pour l'événement du 30 juin, l'heure était au bilan. Pour le secrétaire général adjoint du PPRD parti au pouvoir, il n'y a pas eu des ratés. En ce qui est du bilan, il y a eu plutôt des réalisations avec des actions à impact visible. C'est ce que dit Maître Tunda Yakasenda qui parle d'un bilan largement positif. On l'écoute.
Quand vous prenez dans le domaine de l'agriculture, la première action est celle qui concerne le parc agro-industriel de Bukangalonzo.
Dont on ne voit toujours pas les fruits.
Vous voulez voir les fruits sans que les récoltes ne sortent du sol. La production va bientôt inonder le marché de Kinshasa, du Bas-Congo et même une partie du Bandundu dans le transport. Je crois que vous êtes fiers vous-même aujourd'hui. Le transport dans la ville de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, c'est une fierté de notre pays aujourd'hui. On a renoué même avec les transport scolaire des étudiants. Dans le domaine des infrastructures, n'en parlons même pas. Je crois que là, même les aveugles peuvent témoigner. Vous avez vu les images de l'aéroport modulaire qui a été inauguré. Vous avez vu le siège du gouvernement qui sera bientôt inauguré également par le chef de l'État. Et j'en passe.
Et en revanche, on pense le contraire à l'opposition politique. Selon le président du MPCR, Jean-Claude Vouemba, le bilan des promesses faite par Joseph Kabila est largement négatif dans tous les domaines. On l'écoute.
Monsieur Kabila a prononcé son discours jusqu'à ces jours. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement eu un gouvernement. Nous avons eu un conseil spécial chargé de la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Et puis point. Les concertations avaient sorti plus de 758 résolutions et recommandations. Mais jusqu'à présent, nous ne le voyons pas. Alors c'est pour cela le bilan de Monsieur Kabila ne peut être que négatif.
Il n'y a rien de positif dans tout ce qui a été fait jusque-là.
Mais si,
il y a eu modernisation des aéroports. Avec l'acquisition de nouveaux bus.
C'est quelque chose sur le front, la sueur du peuple congolais. Tous les voyageurs, depuis plus de 2 ans, avant de prendre l'avion, 2 ans, 3 ans, ils déboursaient $50 pour aller en Europe ou en Afrique pour des vols internationaux.
C'est un dossier signé Jeff Ngoye. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que la Tribune de la Presse reçoit ce soir Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA et médian qui émet ici à Kinshasa, Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare, un quotidien qui parie ici à Kinshasa, et Georges Kassongo, journaliste à la radio Akiza Binadamou de Kindu Omaniema. Alors Jean-Pierre Kayembe, quel bilan vous faites du point de vue politique des 55 ans d'indépendance de la RDC? Rapidement.
Merci. J'ai semblé comprendre que les intervenants de tout à l'heure faisaient plutôt le bilan du régime de Joseph Kabila. Ils n'ont pas fait le bilan de 55 ans d'indépendance. Mais écoutez, 55 ans après, avant 1960, il y avait des endroits réservés aux indigènes, il y avait des endroits réservés aux blancs. Aujourd'hui, ces mythes ont été brisés. Aujourd'hui, le Congolais peut circuler et de manière libre, n'importe où il veut, sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, nous avons des écoles, aujourd'hui, nous avons des hôpitaux qui sont fréquentés par tout le monde. Il faut reconnaître que sur certains plans, notamment sur le plan démocratique, on a légèrement reculé avec les 32 ans de dictature sous Mobutu, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'est un pays qui se réveille à peine, un pays qui avance, Tunda Yakasenda énumérer tantôt une liste qui est d'ailleurs qui n'est pas exhaustive par rapport aux réalisations sous Joseph Kabila. Et je crois que le bilan il est plutôt positif, partiellement positif, même s'il faut reconnaître que beaucoup reste à faire, mais le pays va beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années.
D'accord. Alors, Fidèle Moussango, est-ce que vous êtes d'accord? Le bilan est plus ou moins positif et il y a quand même beaucoup de choses à faire.
Non, il y a beaucoup d'éléphants blancs. Quand on me parle de Bukangalonzo, j'ai mal au cœur. Pourquoi, confrère? Nous avons 3 universités où on forme des agronomes, des vétérinaires. Nous avons des universités où on forme des techniciens, des électroniciens, électriciens, même à l'université. Pour faire Bukangalonzo, on est allé recourir au Sud-Africain. Et on a claqué comme ça 80 millions de dollars. Donc on est tenté d'enrichir l'économie sud-africaine, notamment du Congo. Et là, mais ça c'est une honte. C'est une absence de nationalisme. On avait quand même les 80 millions de dollars. On prend ces techniciens qu'on aurait pu former. On les avait en formation 3 mois, 4 semaines.
Mais là, c'est le bilan du. Là, c'est.
J'ai suivi Tunda Kassenda qui a fait ça. J'ai rigolé. Et puis, voilà. On fait ça au Bandundu ici. Et là, il y a 11 provinces. Mais il fallait le faire avec des Congolais. En même temps, c'est un danger, on est en train de tuer le paysanat. On a traversé le monde, on revient au paysanat. On ne peut pas faire d'un paysan un ouvrier, c'est une fabrique en allonge. Tous les paysans ne cultivent plus, ils sont des ouvriers.
Donc pour vous, le bilan est négatif.
Ça, c'est une honte, c'est un acte antipatriotique.
Des 55 ans indépendants.
Bon, je continue maintenant. Sur le plan maintenant des infrastructures qui étaient visibles, de la visibilité, nous avons la compagnie aérienne Air Zaïre. Nous avons la compagnie maritime CMDC. Moi, j'ai des collègues, des amis, qui sont des marins formés, mais qui sont bureaucrates ici à la CMDC. Nous avons le chemin de fer. Nous avons la route. N'oubliez pas que Gizeng et ses compagnons ont fui Kinshasa en VOE jusqu'à Stanleyville. Donc, il y avait des routes en terre battue, mais les véhicules passaient. Dites-moi comment est-ce que moi j'achète le fromage de Massissi plus cher que le fromage belge. Et pourtant, la viande pourrie au Massissi, le riz pourri au Sankourou, le riz, et maintenant je prends le riz ici, de Thaïlande, qui passe 2 mois dans le bateau. Pourquoi on ne voit pas une route au Sankourou pour avoir le riz? Pourquoi il n'y a pas de route qui arrive à Bukavu? Pourquoi même ici au Bas-Congo? J'ai admiré quand on a donné des crédits pour la relance agricole. Mais juste là, je ne vois rien. Bon, il y a le pendant. Alors, nous avions la meilleure compagnie aérienne. Nous avons des pilotes bien formés. N'oubliez pas que c'est des Congolais, ils s'appellent Diassoloa et. Qui ça l'homme échappe là. Il est là, hein Ilunga, qui ont conduit le DC-10 quand ils sont arrivés à Bruxelles. Les Blancs, vous les voyez, c'est des hommes ou des automates. Ça, c'est un. Deux, maintenant, nous n'avons pas compagnie aérienne. Oh, Congolaise, va venir quand? Alors, la CMDC, maintenant nous recourons à un pauvre flamand. J'excuse beaucoup d'après, c'est un malhonnête, marin veste. Écoutez bien, moi j'ai la petite allée de donner mes voitures à Boma et à Matadi. Un véhicule qui prend le bateau d'Anvers jusqu'à Matadi, c'est 1250 euros, rien que pour le transport. Mais le même véhicule prend le bateau là jusqu'à Pointe-Noire, 600 euros. Donc le flamand là, prend à lui-même 650, avec ça, aller sa pounde par-ci, par-là, et nous avons maintenant, ouais, c'est ça, et nous avons des bateaux de port. Deuxième élément, pour le chemin de fer, j'ai applaudi mon ami Kimbembe, j'ai appris que le président Fematadi partait, j'ai dit, enfin, il y a quelqu'un qui est là, donc lui, il a raisonné, voilà un patriote. En quelques temps, il a réfectionné le chemin de fer, Matadi, bientôt on n'aura plus de gros camions là, d'accord. Parce qu'il y a un chemin de fer. Et puis nous allons manger le centre de maïs, le foufou, on l'aura peut-être 15 000 fois, ça viendra par terre. Là c'est bien, pourquoi on ne le fait pas pour le Kassai?
D'accord, alors Jean-Pierre Kaïmé...
Et le Katanga.
Jean-Pierre Kaïmé estime que le bilan il est plus ou moins positif, vous estimez Fidèle que le bilan il est largement négatif, alors Georges Kassongo, selon vous, comment jugez-vous le bilan des 55 ans d'indépendance de notre pays?
Oui, alors...
Oui Georges, on vous écoute, comment vous jugez les 55 ans d'indépendance de la RDC?
55 ans depuis notre accession à la souveraineté internationale ou nationale, les bilans sans aller par quatre chemins, les séminaires qu'on fait avec vous sur les plateaux viennent de dire les tout, mais en gros, s'il faut ramasser d'une seule main, je vous dis que le bilan est largement négatif. Hein. Il ne faut pas suivre les discours d'autosatisfaction comme vient de le faire
Fidèle.
Maître Tunda, ministre, vice-ministre honoraire, Maître Tunda, que nous respectons, mais ça c'est un discours de palais, de consommation locale. Mais qu'est-ce que nous avons? Les Blancs nous ont légué 5120 kilomètres de rails. Qu'est-ce que nous en faisons à présent? C'est comme ça que nous devons essayer de réfléchir. On nous a légué des INERA, hein, des instituts de recherche agronomique.
Mm-hmm.
Nous savons les nombres. Ils sont opérationnels. Ils nous ont laissé des bus, ils nous ont laissé des hôpitaux, des édifices publics. Tout ça, regardez l'état actuel à l'état antérieur. Parce que les gens, bon, nous sommes les Congolais, nous avons la mémoire, et puis notre mémoire n'est pas tellement courte pour oublier tout ce qui s'est passé. Nous devons nous regarder les yeux dans les yeux, et à cette date, on devrait au moins réfléchir autour des grandes options que nous devons prendre pour poursuivre notre parcours et tant que faire. C'est comme ça qu'on devrait raisonner. Au lieu de s'adonner à des folklores, des chants, des histoires, on devait se mettre là, réfléchir dans un séminaire, dans un colloque, où on devait dire qu'est-ce que nous voulons chez nous, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire, que font nos amis, que font nos voisins. C'est comme ça, on ne peut pas inventer la roue sincèrement, nous avons eu la chance de quitter le pays de temps à autre. Nous voyons ce que font nos voisins. Mais
merci.
Nous, qui sommes-nous, on nous appelle souvent un trou noir.
Merci.
Pourquoi cette appellation? Pendant qu'il y a des discours d'autosatisfaction, ça et là. Non, on doit se regarder les yeux dans les yeux, sans honte, se dire. Moi, à mon avis, le 30 juin, on devrait organiser des conférences, des réflexions, sans parti pris. Vraiment, on devait dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons dans notre pays.
Merci.
Où allons-nous?
D'accord.
Où venons-nous? C'est comme ça qu'on devrait raisonner et non pas se donner à des discours fantaisistes de consommation domestique ou des palais. Vraiment, c'est comme si on ne veut pas, on n'aime pas notre pays.
Merci beaucoup. Alors, tout de suite, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons passer à notre deuxième thème de la soirée qui concerne la loi de programmation. Au 30 juin dernier, comme on l'avait dit dans le sommaire, la RDC devait passer de 11 à 26 provinces selon la loi de programmation. 6 commissions étaient installées depuis le mois d'avril dernier pour, entre autres, évaluer le travail des provinces à démembrer. À ce jour, seule la province de l'Équateur a déjà déposé son rapport à l'Assemblée provinciale depuis le week-end dernier, après 2 semaines de travail. Mais après une première lecture, le président de l'Assemblée provinciale, le député Jean Gontran Ibambe, dit avoir relevé certaines incohérences qui, d'après lui, doivent être corrigées avant la session extraordinaire. Il le dit au micro de Paul-Richard Malignella.
À notre niveau, le bureau a constaté une certaine irrégularité, mais une certaine confusion qui ont été créées par cette commission. Si nous prenons le rapport synthèse, la commission, par la répartition, a changé les données de 2 provinces. Il a donné plus de population à Nord-Ubangi, qui compte moins de population, et le Sud-Ubangi, on lui a donné les chiffres de Nord-Ubangi. Cela sera comme incidence. Lors des répartitions, il s'avérait réel que le Nord-Ubangi pourrait recevoir des rétrocessions plus que le Sud-Ubangi. Or, c'est le Sud-Ubangi qui est la plus grande province. Vous allez voir aussi, en ce qui concerne le nombre d'écoles, le nombre de zones de santé, tout a été interverti. Les données de Sud-Ubangi se trouvent dans le Nord-Ubangi, les données de Nord-Ubangi se trouvent dans le Sud-Ubangi. Ce sont des difficultés qu'a connu le rapport de la commission. Nous allons relever plus rapidement possible, nous allons envoyer ça au niveau de vice-primature, ministère de l'Intérieur, pour corriger rapidement ce serait avant que l'Assemblée provinciale puisse prendre acte.
A noter qu'à Lubumbashi et à Mbujimayi, les commissions sont arrivées cette semaine, alors qu'à Kananga, au Kassai-Occidental et au Bandundu, les commissions ne sont pas encore passées. Georges Kassongo, quelle analyse vous faites des commissions de démembrement, rapidement?
Voilà, ces commissions, il y a des endroits où ça avance et par endroits où ça ne va pas très bien. Mais, Dieu merci, nous avons entendu qu'au Katanga aussi, on a déposé les rapports au gouverneur et à l'Assemblée en province orientale. Voilà, autant de commissions qui ont déjà remis leurs conclusions. Nous espérons, mais les problèmes ne se posent pas à ce niveau. Ce que nous devons voir. Je me rappelle toujours de la phrase prononcée par le roi Baudouin qui disait « Nous devons prendre soin des réformes actives qui puissent et qui ne puissent pas, disons, compromettre notre indépendance. » Vous voyez, nous avons la décentralisation, nous avons le démembrement, nous avons des élections, nous avons beaucoup de choses en même temps. Avec quel budget? C'est ça au moins. Des réformes, nous en voulons. Mais est-ce que des réformes actives qui puissent compromettre tout ce que nous avons déjà fait? C'est là où nous devons aller en mollo-mollo. S'il fallait commencer par la décentralisation, c'est ce que nous devions faire. S'il fallait commencer par les démembrements, c'est ce que nous devions faire. S'il fallait prioriser d'abord les élections. Mais voyez, 1,9 milliards devant toutes ces dépenses. Imaginez toutes ces assemblées. Imaginez tous les conseils de secteur, tous les conseils de chefferie, tous les conseils urbains. Ça va représenter, selon mes simples calculs, de 10 à 15 milliards de dollars pour leur installation effective.
Merci.
Et vous voyez d'où provient cet argent. C'est compliqué.
Merci beaucoup. Alors, je reviens sur ce plateau. Jean-Pierre Kayembe, comment vous expliquez que nous ne passions plus à 26 provinces comme prévu par la loi?
Bon, il faut reconnaître que les commissions mises en place ont pris du retard dans l'exécution de leurs tâches, retard dû, j'imagine, pour des raisons financières, j'imagine que...
Et on parle aussi de la volonté politique dans certains salons politiques.
Volonté politique, s'il n'y avait pas de volonté politique, on n'aurait pas relevé ces débats, on n'aurait pas remis au grand jour. Donc je crois que il faut plutôt donner le temps au temps. C'est vrai, la date fétiche du 30 juin est passée, mais bon, Dieu merci, certaines commissions ont déjà déposé le rapport et donc il faut attendre la suite. Ce qui est vrai que ce processus est très très important pour notre peuple, pour notre population, pour notre pays, pour notre nation, surtout que il va rapprocher les administrés des administrés. Donc c'est très très important.
Alors, Fidèle Moussangou, est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme on l'a vu à l'Équateur, le travail a été fait en 2 semaines, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de faire un travail à la va-vite? Les commissions font un travail à la va-vite.
Écoutez, il ne faut pas commencer à mentir l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du découpage du Congo. On avait le Congo de 27 provinces ici. Et des provinces où le gouverneur logeait dans une hutte, avec un vélo, avec un drapeau. On a eu ça. Et puis, on a compris qu'on était mal tombé, on ne payait pas l'argent à la bagarre. Les provinces ne vivaient pas. Regardez, Kinshasa, la capitale, la province n'a pas une salle pour l'assemblée provinciale. Ils vont se réunir au collège Bokoto. Oui. Ils payent. C'est ridicule. Alors maintenant, les provinces comme le Sud-Ubangi, les députés vont loger ça. D'abord, les dépenses des souverainetés, les gens en bas pour payer les institutions politiques. On n'a pas cet argent. Déjà avec les 11 provinces, le gouvernement central est incapable de retrocéder les 40%, tel qu'est prévu par la Constitution. Alors j'ai suivi un jour un membre de la majorité. Non, écoutez, il faut respecter la Constitution. Je lui ai dit, respectez la Constitution, mais vous ne payez pas les 40%.
Et en conclusion, qu'est-ce qui doit être fait?
La conclusion, il faut donner le temps au temps. Le temps ne pardonne pas à celui qui travaille contre lui. Parce qu'il faut réfléchir. À la CNS, les Congolais ont réfléchi, ils ont donné plusieurs conditions. On ne les a pas encore remplis pour passer. Il ne faut pas aller, il faut pas. On risque de croire que Kabila voudrait, je dis, on l'accuse, on le soupçonne de vouloir mettre le feu à la maison et d'en profiter pour décréter l'état d'urgence et de ne pas faire les élections.
Alors, en conclusion, Jean-Pierre Kayembe, parce que nous arrivons déjà à la fin de notre émission, qu'est-ce qui doit être fait?
Ce qui doit être fait, c'est que il faut donner le temps au temps, il faut laisser à ces commissions le temps de faire leur travail. Il ne faut pas toujours faire un procès d'intention comme on a toujours l'habitude de les faire, d'autant plus que ce processus de démembrement, il est constitutionnel. Il est demandé par notre population lors du référendum. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui que l'on passe de 11 à 26 provinces, laissons le temps au temps, comme je le disais.
Merci beaucoup. Alors, Georges Kassongo, en conclusion, qu'est-ce qui doit être fait? Jean-Pierre et Fidèle affirment qu'il faut laisser le temps au temps. Qu'en pensez-vous?
Vraiment, je marie leur idée. Il faut donner du temps au temps, parce que le temps, lui aussi, a besoin du temps. Vous voyez, la vie d'une nation ne peut pas être mesurée en termes d'un mandat. Il n'y a personne qui peut terminer tout ce qui est à faire dans un pays à lui seul et dans un mandat. Donc, il faut donner du temps au temps et surtout ne pas embrasser beaucoup de réformes qui puissent compromettre notre développement.
Merci.
Je prends un exemple d'une contestation qui a été faite par les gens du pouvoir. Le Kassa oriental a pris acte du découpage, mais a demandé de revenir aux dimensions du sud Kassai. Ça veut dire qu'il conteste le découpage.
Merci beaucoup. La tribune de la presse, c'est fini pour ce soir. Nous prenons rendez-vous avec vous le vendredi prochain à la même heure. Sinon, le dialogue entre Congolais, c'est pour lundi prochain dès 19h15. Sylvain Matundu était à la prise de son. La coordination a été assurée par Guy Maté. Et Martin Sebujango l'a supervisé. Berry Franklin Luchaka vous dit merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapi.net.